Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les deux gars. Ça a chassé, un certain temps, les animaux des villes, chiens, chats, rats, etc. Donc, beaucoup de choses positives. La baisse du chômage a été de 70%. La population des villes a baissé, malgré tout, de 40%. Ce peu n'est pas si mal. Bien sûr, on aurait souhaité plus. Dans les campagnes, de 20%. La construction a augmenté de 60%. Parce que chaque immeuble qui avait un cas de choléra, les habitants avaient été mis en quarantaine dans des HLM en banlieue, spécial lieu de sanitaire, pour une vie de 6 mois. Il y a à côté de ces HLM le cimetière et la prison, que dans l'ensemble, ça s'est bien passé et que les gens ont été très maniables et ont tout accepté et que ça a été très positif. Le gouvernement étudie avec le service de recherche épidémique de Lyon une autre épidémie pour l'année prochaine pour faire avancer la réhabilitation mais trop pas les gens. Supprimer les manifestations, émeutes, etc. Ce sera la filière du groupe Franblanc qui s'occupera de mettre en marche cette nouvelle épidémie. Le groupe Pontois créera l'épidémie avec Riquin. Et il s'occupera d'éliminer l'épidémie. de le gérer. Ce serait la filiale du groupe Franblanc qui s'occupe de mettre en marche la nouvelle épidémie. Le groupe Pontois qui crée l'épidémie. Avec Pontois et Riquin. Il s'occupe de... mettre l'épidémie en marche. De gérer ce qui va se passer. Les ambulances, les camps, la quarantaine, les soins, etc., etc. Et le groupe Franblanc connecté avec eux s'occupe de l'évacuation des lieux, le relogement, la démolition, la reconstruction, etc., etc. Ce qui fait qu'il y a le groupe Pontois qui prépare une épidémie, fait l'épidémie, le groupe Riquin soigne l'épidémie et le groupe Franblanc s'occupe pour l'évacuation des gens et la reconstruction. Certains pensent que le groupe, que dans le groupe, que le choléra a été fabriqué et déversé par le groupe Pontois. Et que c'est une opération zéro pour voir si tout allait bien. Tout allait bien fonctionner comme prévu. Voir les comportements des gens, comment ils allaient agir, comment allait agir la population. Le choléra a été diffusé par des rats infectés que le groupe a envoyé dans diverses villes comme Paris, Lyon, Marseille, Grenoble, etc., etc. Et même à l'étranger, Yougoslavie, New York, Pékin, Berlin, etc., etc. Mais c'est peut-être faux. Une histoire inventée. Quoique le groupe Pontois a toujours fait peur, voire violence et crépuscule. Et la vie reprend. Nos deux amis continuent à bien travailler au lycée. En grandissant, ils ont des désirs, disons, sensibles, difficiles à dominer. Mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent rester purs. Pourtant, les filles les regardent et ne demandent que ça. À notre époque, personne ne les y empêcherait, même pas les parents. Mais non, pourquoi ? C'est la timidité à peur. Comme il est d'un milieu qui n'est pas le même que ceux de ses camarades et que ce milieu est plus bas, ça le fragilise et le rend plus timide. Il a peur qu'en sympathisant avec les autres, qu'ils apprennent plus facilement ce qu'il est. Oui, comment ils vivent. Il se dit que si une fille a des relations avec lui, et peut-être l'aime, elle voudra savoir où il vit et connaître sa famille. Et là, que faire? S'il refuse, il va avoir l'air de lui cacher quelque chose, de ne pas la prendre au sérieux, de ne pas assez l'aimer, de se moquer de ses sentiments. ne peut malgré tout dire à la fille d'un riche industriel, par exemple, qu'il vit dans un quartier populaire, son père est manutentionnaire, sa mère est en prison pour meurtre, mais attention, elle n'est pas coupable et n'a pas encore été jugée. C'est impossible. Et ici, chaque fois qu'une fille lui propose quelque chose, une soirée, ou simplement essaye de le draguer, il fait celui qui ne comprend pas et s'éloigne. On finit par le prendre par un simple d'esprit ou un pédant. Pour Mathieu, c'est la même chose, ce qui fait que les deux garçons sont isolés. On a vite oublié le temps, très court, où ils étaient invités à des soirées, comme des enfants prodigues, et même qu'ils étaient les amis des Francs Blancs, Gilbert, l'ami de Gilbert. C'était tout de même quelque chose. Mais tout ça a été oublié, d'autres les ont remplacés pour ces soirées. Comme Alexis a des choses à cacher, il se sent inférieur aux autres à cause qu'il a des choses à cacher, il se vaut mieux que les autres et pour cela il faut qu'il soit irréprochable. Il ne supporte pas la vulgarité. Lorsque des garçons parlent des filles et qu'ils disent des choses d'une façon vulgaire et crue, il ne se mêle pas à la conversation et se retire. Et les garçons disent que c'est un puceau ou un pédé. Alexis ne supporte pas les choses du corps. Et leur désignation, ça le dégoûte. Surtout la façon dont on en parle. Pourtant, il est tiré par le sexe, mais c'est comme ça. Il sait qu'il n'est pas aimé. De moins en moins, il recherche. C'est qu'on l'estime, on le prend pour quelqu'un de fort et il se dit que c'est mieux que d'être aimé. Lorsqu'il va dans les toilettes du lycée, les graffitis, la connotation sexuelle. Et même il y a des dessins. Ça le choque, et malgré lui, il est attiré par la chose. Certains dessins ou phrases, malgré lui, l'excitent tellement qu'il est obligé, malgré lui, de se masturber dans ce lieu sale, qui ne sent pas très bon, au mur, plein de phrases vulgaires et remplies de taches qui vaut mieux pas savoir de quoi. Il se fait l'amour au milieu de tout ça. Il en a honte, honte. Je demande pourquoi il a fait ça. Ils se sont épuisés, mal au corps, très là. La nuit, ça le prend. même toutes les nuits. Des fois, il aimerait, c'est ne plus avoir ses désirs. Il se dit, vivement que j'ai plus l'âge pour ces choses. Il aimerait être Dieu, pour ne plus avoir de désirs comme ça. Pour Mathieu, c'est la même chose. Ça le prend, même pendant les cours. Là, il ne sait comment faire. Son voisin, de banc, des fois s'en aperçoit. Il aime rire de ça. Et il colle sa jambe contre ses jambes. Ou met sa jambe entre les siennes. Mathieu a voulu dire, il lui fout la paix. Et tu dis, un grand blond, beau, t'es dégueulasse de faire comme ça, de bander comme ça. La jambe de son voisin excite Mathieu. Ça excite encore plus. Il aimerait, lui aussi, lui casser la figure. Mais l'autre est grand, plus fort que lui. Des fois, lorsqu'ils sont seuls dans leur chambre, dans la chambre d'Alexis, ils parlent de leurs troubles. Mathieu lui dit, qu'est-ce que c'est chiant de bander? Ça t'arrive souvent, toi? Alexis lui dit, oui, hélas, et c'est la chose que je déteste le plus. Ça dégrade vraiment les hommes, cette chose. Mathieu lui dit, je me demande pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas à se dominer. Ce truc, on a l'impression que c'est à part soi. Alexis lui dit, oui, c'est vraiment dégueulasse. Il est heureux de voir que son ami lui parle comme ça et n'aime pas ça. Les deux amis sont très liés. Plus que deux frères. La maladie qu'a eu Mathieu lui a fait connaître son ami à fond. Ils travaillent toujours ensemble, leurs cours, ils font quelques petits boulots, mais pas trop. Et qu'après leurs cours, les parents veulent absolument qu'ils réussissent. Les jours passent, les vacances scolaires, ils les passent chez eux, dans leur quartier. Lorsqu'il fait chaud, la journée, ils restent à lire dans leur chambre, dans la chambre de Mathieu, au frais. Après un petit arrêt, à cause du choléra, les émeutes ont repris de plus belle, et la casse aussi, les incendies, les tueries. Certains pensent qu'ils étaient plus tranquilles et mieux durant l'épidémie. La nuit, il faut éviter de sortir. Lorsqu'Alexis marche dans les rues, un jeune garçon fait la manche. Il pense à Olivier. n'est pas, ou s'il retournait vers la maison, parce qu'il ne sait pas que si c'était un rêve ou la réalité, ce qui est arrivé. Il pense seulement que c'était quelque chose d'étrange. Et que c'était quelque chose hors du temps, pas de son époque. Alexis reçoit une lettre. C'est une Madame Poncet qui veut le revoir. Il se dit, qu'est-ce qu'elle me veut? Il n'a pas du tout envie d'aller la voir. Son père lui demande, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Il lui dit, Madame Poncet qui veut me voir. Son père lui dit, elle veut t'aider? Je ne sais pas. Son père réfléchit et lui dit, il faudra peut-être y aller. Elle a peut-être quelque chose à te dire, ou quelque chose à te donner. Mais elle veut peut-être te parler de ta mère. Et il lui demande, eh, qu'est-ce qu'elle aura à me dire? Il lui répond, je ne sais pas, mais ta mère a travaillé pour elle, alors? Et il lui dit, bien, je vais aller la voir. N'a pas du tout envie d'y aller. Mais il va aller la voir pour faire plaisir à son père. Alors il écrit à Madame Poncet pour lui dire qu'il la remercie et viendra la voir vendredi à 15h comme elle l'a proposé. Il a envoyé la lettre. Il parle de rendez-vous à Mathieu qui lui dit, elle veut peut-être t'aider. Ce serait tout de même une bonne chose. Alexis lui dit, nous sommes passés de son aide et j'aime mieux mon indépendance. Et le vendredi, à 14h30, il prend le car pour aller chez Madame Poncet. Vendredi après-midi n'a pas cours. Pour ça qu'il peut y aller. Malgré le temps qu'il est à Paris, il ne se souvenait plus bien où il fallait s'arrêter. Le quartier n'a pas changé. Peut-être un peu plus vieux que dans ses souvenirs et plus grand. La rue de Madame Poncet est plus petite et moins belle. Le portail a rouillé. Il appuie sur l'interphone.
Oui.
Une voix, cette voix. Je suis Alexis Prudent, j'ai rendez-vous chez Madame Poncet à 15h.
Bien, entrez. Vous êtes un peu en avance.
D'entendre des cris du portail. Et il entre. Il fallait le pousser pour rentrer. La cour et la maison sont plus sombres et délabrées. La fontaine est plus menaçante. Il monte le perron, sonne à la porte. Elle s'ouvre, c'est la bonne, plus petite et plus vieille. Elle lui dit,
entrez!
Il entre, elle ferme la porte.
C'est sombre, ça semble refermé, mais plus beau que dans ses souvenirs. Elle lui dit,
vous avez 5 minutes d'avance. Je vais voir si madame veut tout de même vous recevoir.
Elle le laisse monter les escaliers. Alexis se dit, si elle me prend ou me traite comme un domestique, je m'en vais. La bonne revient. Elle lui dit,
madame veut bien vous recevoir. Venez.
Il la suit.
Il monte les étages. Et au premier, le couloir est sombre. Elle frappe.
Entrez!
La bonne ouvre la porte. Elle laisse entrer.
Le salon est très sombre et très encombré de meubles. Elle est là, assise dans son fauteuil, près de la fenêtre. Toujours la même, peut-être plus maigre. Elle lui dit,
approche.
Il approche. Se met devant elle. Elle le regarde bien. Elle lui dit,
te voilà un jeune homme.
Maintenant, elle soupire.
Assieds-toi en face de moi.
Il va s'asseoir sur une chaise en face d'elle. Elle lui dit,
je t'ai fait venir, c'est parce que j'ai réfléchi. Je voulais plus te voir parce que tu fréquentais ce Gilbert. Mais que tu ne le vois plus, je me suis dit qu'on pourrait recommencer comme avant. Je pourrais t'aider et nous pourrons se redevenir amis.
Malheureusement, je vois, c'est que tu es devenu un jeune homme. Tu n'es plus le même.
Je me méfie des jeunes gens. J'ai eu tellement de déceptions avec eux. Ils sont égoïstes. Tous mes malheurs viennent d'eux. Je n'ai aimé que des jeunes gens qui ne pouvaient m'aimer pour une raison ou une autre. Pour Jean, j'étais jeune et belle, gentille fille. Je n'aime pas les jeunes gens.
Et qui se sent gêné, ne sait pas où se mettre. Elle lui dit,
je ne savais pas que tu étais devenu un jeune homme. Mais on ne peut pas arrêter le temps.
La frappe à la porte.
Entrez!
Nathalie. La mère fronce ses sourcils. Elle dit,
c'est ma fille!
Elle se lève. Nathalie va vers eux. Elle dit,
ah, vous êtes avec Alexis?
Il lui dit,
oui!
Nathalie lui dit, comme vous êtes devenu grand et jeune homme, sa mère se dit,
il ne va tout de même pas me le prendre.
Elle dit à sa fille,
oui, oui, il a grandi.
Nathalie s'assoit à côté, entre sa mère et son fils et Alexis, mais de façon de pouvoir les voir tous les deux. Elle demande,
qu'est-ce que vous devenez Alexis?
Il lui dit, pas grand chose, les études. Je vais bientôt préparer mon bac. Et puis, ma mère est toujours, malheureusement, incarcérée. La télé lui dit,
je ne savais pas pour votre mère, mais je vais en parler à Gilbert.
La mère lui dit,
pour qu'il la mette dans une de ses prisons.
écouté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.